Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h05, on y revient au mastic, on est dans le Super Moscato Show, comme tous les jours, vous savez qu'on est là de 15h à 18h du lundi au vendredi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous en remercie. Bien entendu, nous sommes avec Rico Del Prado. Comment il va, Eric ?
Comment ça va, Vincent ? Salut à tous, Pierrot, Adrien, Denis. Bonjour à tous. Écoute, écoute, la programmation des Galéjades de 2026 est sortie. Donc, voilà. Vous pouvez aller voir l'Instagram. Voilà, le vendredi 28 août, il y aura 10
qui va y avoir.
Eh ben Ziz du Panier le vendredi 28 août et Comédie Club avec Bosso, un artiste principal. Et Greg Petras, Julien Vine et Gabriel Giraud seront les artistes.
T'as remis au boulot Bosso, quoi. Ça, c'est quand même un exploit, quand même.
Alors, écoute, vraiment, il a fallu négocier.
J'ai rarement vu ça, quand même.
Il a fallu négocier.
Ah ouais, mais lui, il veut bien faire des one man show, mais maintenant de 15 minutes, pas plus, parce qu'après ça l'énerve. Après, dès qu'il commence à transpirer, il en a marre. On l'embrasse, bien entendu, à monsieur Bosso. Nous sommes avec The Flower from
Kyoto.
Salut,
t'en
veux du vaillant, là il y en a un vrai.
Salut, Eric.
Comment il va, Denis?
Ça bosse, là.
Ah ouais, ouais. Donc, décidément, vous avez décidé de me critiquer gratuitement.
Non, mais
je bosse pas.
Mais qu'on parle de boulot, qu'on intervient sur toi, Denis, quand même.
Non, mais c'est vrai, toi, t'as bossé toute ta vie aussi, oui. C'est vrai.
Durement, d'abord, ça a commencé par l'école où je travaillais, où j'étais un des premiers, bien sûr. Voilà. Bon, ça va, tout va bien.
Ça va, impeccable. Je me suis réveillé cette nuit, j'ai regardé un peu tout. Comme Eric Dimeco, peut-être, non?
Maroc.
Tu nous aurais dit que tu t'étais réveillé pour le foot, on ne t'aurait pas cru parce qu'il n'y a plus personne à côté. Adrien, ouais.
Comment ça va?
Il n'y a plus personne qui le réveille.
Ou alors, on se fait du souci pour Coco.
C'est la Saint-Denis aujourd'hui.
Ouais, c'est là, Coco.
Alors, la question moyenne du jour, il est 15h07, c'est la tradition. Très simple, quel est le plus probable ce soir? Nouveau triplé d'Ousmane Dembélé. Oui, nouveau triplé où la France est éliminée par la Suède en 16e de finale de la Coupe du Monde.
C'est facile ça.
Quel est le plus probable? Nouveau triplé de Dembélé où la France est éliminée.
Triplé de Dembélé.
Sans aucune hésitation.
Aucune.
Eric Dimeco.
Ouais, pareil, ouais.
Pareil, Vincent.
Ah ouais.
Pierrot.
Ah ouais, ouais, ouais.
Oui,
si on perd contre les Suédois quand même.
Regardez, faites attention. Faites attention qu'ils ne soient pas triplés d'Olysée parce que quand il y en a un qui n'est pas chaud, c'est l'autre qui est chaud à côté.
Ils se font des relais.
Ah ouais, là.
Bon, vous êtes optimiste. Attention, on va en parler, mais il y aura peut-être un bus devant le bus de la Suède.
Le premier débat, on va voir.
Le bus impérial. Vous répondez le plus probable à 73%, la France s'enflamme. Vous répondez le triplé de Dembélé, un nouveau triplé. Deux triplés en deux matchs de Coupe du Monde, c'est jamais arrivé. Hein. Je pense pas que ça soit arrivé. Un exploit de l'histoire de la Coupe du Monde.
Quelle chance on a de perdre ce soir?
Des surprises, il y en a toujours.
C'est notre premier débat. Parce que hier, l'Allemagne face au Paraguay, c'était à peu près la même chose.
Oui.
L'Allemagne est sortie. Et puis le Brésil a eu chaud, donc. Est-ce un avertissement pour les Bleus? Voilà, tout simplement.
Voilà, tête des mecs qui jouent en Suède, qu'on dirait le groupe ABBA en défense. T'es pas emmerdé, je te le dis. Je sais pas si vous rappelez les dégaines qu'ils avaient.
Ah oui, 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 oui.
C'est pareil.
Est-ce un avertissement pour les Bleus? Tu sais que récemment, ABBA, ils ont fait un concert en hologramme avec leur gueule de l'époque. Hein.
Ouais. Non.
Ben oui.
C'est les fringues aussi de l'époque.
Star mondial.
Les fringues de l'époque.
Bien sûr.
Les stars, oui, bien sûr.
Non, bien sûr que c'est des méga stars. Tu sais, j'ai regardé la dernière fois un reportage aussi sur les Bee Gees.
Oui,
200 000 personnes.
Oui, oui.
200 000 personnes.
Il y en a pas un qui est mort.
Il y en a deux. Même le troisième.
Le dernier, il est mort en 2017 ou un truc comme ça.
Mais ils ont commencé jeunes en plus. Ils sont australiens.
Ah ouais, c'était trois frères australiens. Ils chantaient. Non, mais c'est impressionnant. Putain, je me suis régalé quand j'ai dansé.
Et toi, Vincent, du coup, tu fais un peu comme Abba, tu remets tes habits des années 70.
Je les ai pas quittés.
Alors, donc, le premier débat, est-ce un avertissement pour les Bleus? On va parler des pénalties aussi, puisque vous savez qu'on a un sélectionneur qui ne travaille pas les pénalties. Et je pense qu'hier, les Allemands se sont mordus les doigts. Donc, on va remettre ça sur le tapis.
Oui, mais alors, attention, Pierrot. C'est pas aux sélectionneurs à faire travailler les pénalties. C'est aux mecs eux-mêmes de travailler les pénalties.
Je suis déjà énervé de ce débat, ça y est, déjà.
Ah oui, déjà.
Bravo Vincent, tu as réussi à m'énerver en 15 secondes. La défense, est-ce le point faible des Bleus? C'est à 17h. Et puis, est-on obligé d'aimer le stade toulousain. Vincent règle le problème. Parce que le stade toulousain s'est trouvé des ennemis, mais il a probablement aussi des ennemis réels. Hein. Il y a des imaginaires, certains, mais d'autres réels. Hein. Journal moyen. Première édition, 15h45, Adrien.
La BBC a calculé le bilan carbone du président de la FIFA depuis le début. Depuis le début de la Coupe du Monde. C'est pas joli, joli. Hein. C'est pas un exemple, Vincent. Oui. Bilan carbone.
Le bilan carbone de Coco.
Très, très lourd.
Sur une année. Quoi. Et puis, dans le Kikadi, je vous rappelle que vous pouvez gagner cette semaine une machine à café Senseo. Donc, pour tenter votre chance, vous vous inscrivez en envoyant Kikadi par SMS au 7-32-16. Donc, tout de suite, on va démarrer sur ce France-Suède. Pour gagner ce soir, il faudra être soudé.
RMC, le Super Moscato Show. En ce moment sur RMC, c'est la Coupe du Monde de foot.
Quand on gagne ensemble, on gagne tous ensemble, on fait tous ensemble, et quand on perd, faut être tous ensemble.
La France est en 16e de finale.
Les matchs de poules et même après les matchs en élimination directe.
Les éliminations en direct.
Ce soir, France-Suède.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
23h, coup d'envoi en direct de New York.
Le fait que ça soit les États-Unis, que ça soit loin.
Suivi du débrief.
Si vous mentez, et vous mentez.
Tu mens quand tu dis que je mens.
Et de l'afterlife toute la nuit.
Merci Gilbert, à tout à l'heure.
Avec les autres matchs du jour jusqu'à 5h du mat.
Les canaris, c'est le fils du canard et de la canne.
Quelle est la différence entre un poussin et un canari?
Le canari, c'est celui du canard, non?
France, Suède.
Les coups soudés tous ensemble, se serrer les mains.
On va s'en sortir ensemble.
C'est ce soir à 23h sur RMC.
Enjoy, comme ils disent. One life.
Breaking news. Je ne sais pas si c'est Walla ou One Life.
Il y a un bel accent, un bel, beau petit accent.
Et vous n'avez pas honte de vous moquer
oui,
de ces
missionnaires
quand même.
On se rend compte que dans un mois, il sera double champion du monde. Donc, ouais. Franchement, qu'est-ce qu'il en a à faire dans
j'espère
un
mois. Que vous le respecterez. Là.
Double champion du monde, il ne sera pas moins double. Moins de mois
même. Ouais,
il
sera double en tant que sélectionneur.
Il est 98, il sera triple
champion du monde. Triple champion du monde, c'est dingue.
Triple champion du monde.
Allez, ce soir, la France est archi favorite face à la Suède, mais... On a vu hier le Brésil trembler face au Japon et l'Allemagne éliminée par le Paraguay, un petit Paraguay en plus, hein. Même pas une grosse équipe, donc peut-être pas plus forte que la Suède après tout. Ces matchs sont-ils un avertissement pour les Bleus? Le 32-16 est ouvert pour débattre avec la Dream Team. Nous sommes en direct des États-Unis avec Florent Germain. Salut Flo.
Salut Pierrot, salut à tous.
Alors, on compte sur Didier Deschamps, évidemment, pour mobiliser ses troupes et éviter tout relâchement. Hein.
Oui, en général, il sait faire. C'est un discours en plus que Deschamps tient dans le vestiaire fréquemment et qu'il a rappelé dès qu'il est rentré aux États-Unis au lendemain de France-Norvège. Il y a d'ailleurs eu une petite vidéo diffusée par la Fédération française de football. C'était à l'hôtel des Bleus à Boston. Il dit, il avertit en gros hein, ses joueurs en disant qu'une nouvelle compétition commence. Le coup près peut tomber à la fin de chaque match à élimination directe. Donc, il en appelle à la détermination, à la concentration maximale. Voilà, pas le droit de prendre l'adversaire de haut et visiblement écouter Adrien Rabiot, le milieu de terrain de l'équipe de France, le message est passé.
On entend forcément, mais on essaye de rester dans notre bulle. Je pense qu'on l'a bien fait jusqu'ici. On aurait pu se relâcher quand on sait qu'on affronte une équipe comme l'Irak. Et ça n'a pas été le cas. On a très bien bossé, on a très bien préparé les matchs, toujours avec autant de sérieux. Évidemment, il se dit beaucoup de choses, mais c'est aussi ce qu'on a démontré sur le terrain, ce que l'équipe de France a fait. Il y a des éloges, mais il faut essayer de rester concentré sur ce qu'on veut faire, là où on veut aller. On ne le prend pas à la légère du tout. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir.
Voilà, il insiste beaucoup sur le statut de favori qu'on prête à l'équipe de France, Adrien Rabiot. Et honnêtement, je vous livre ces petites coulisses. Il n'y a pas une conférence de presse, pas une interview depuis le début de la Coupe du Monde où il n'y a pas notamment des journalistes étrangers qui demandent si les Bleus vont s'imposer facilement tellement ils sont favoris, si ils sont meilleurs qu'en 2018, meilleurs qu'en 2022. Donc on a un Didier Deschamps et un Guy Stéphane, notamment après France-Norvège, qui veulent calmer le jeu. Il y a eu cette petite phrase de Guy Stéphane notamment qui a dit c'est beaucoup trop tôt pour le dire, offensivement on est peut-être meilleur mais défensivement c'est pas le cas, il y a un équilibre à chercher, donc il y a une petite inquiétude à ce niveau-là, notamment face à une équipe de Suède qui aligne quand même Gyökeres et Langa Isak, des joueurs qui ont quand même un pédigré assez intéressant et qui en première ligue sont habitués aussi aux matchs de haut niveau.
Alors on fera le match entre l'attaque suédoise et la défense des Bleus à 17h. La défense est le point faible des Bleus. Mais pour l'heure, on parle de ce match dans sa globalité, du statut de favori et des surprises qu'il y a eu hier quand même. L'Allemagne est éliminée par le Paraguay. Est-ce que c'est un avertissement, Vincent ?
Bon, c'est un avertissement. Quand même, c'est, oui, si tu veux, c'est un avertissement. Tous les échecs des grosses équipes sont toujours un avertissement. Mais c'est pas, pour l'équipe de France, ça n'a rien à voir. Je veux te dire, tu peux pas comparer l'Allemagne avec ton équipe de France. Alors, c'est vrai qu'on se chauffe pas mal, mais quand même, tout le monde est unanime. Je regardais, comment il s'appelait, Zlatan, qui faisait des éloges, ouais. Qui expliquait quand même, les qualités de l'équipe de France.
Pourtant, lui, en général,
tout le monde dans ce sens-là. J'ai pas l'impression que l'Allemagne, c'est quand même une belle équipe de pipe. La fois d'avant, quand même, ils avaient perdu, même s'ils avaient fait tourner, ils avaient perdu contre le Sénégal ou la Côte d'Ivoire,
l'Équateur.
Donc quand tu perds contre l'Équateur, même avec une équipe un peu bis remaniée, t'es quand même pas, c'était pas flambant neuf. Alors je veux bien que ça soit une grande nation du football.
Non, mais par contre, ils ont quand même assez de marge pour battre le Paraguay, tu vois. C'est ça.
Mais ils ont assez de marge, mais y a pas de marge à partir du moment où tu mets pas le truc. Regarde les Japonais organisés avec un collectif de feu, ont failli faire chuter le Brésil qui eux ont en plus. Je pense qu'ils ont un boulard naturel parce qu'ils sont doués. Ils sont doués génétiquement au football. Donc, quelque part, il y a quelque part un esprit de domination, mais qui ne s'avère plus maintenant parce qu'ils n'ont pas, ils font pas gros pour le Brésil. Donc, ils ont failli passer la trapinette. C'est pas des grosses équipes. Nous, c'est pas du tout pareil. Alors, il faut se méfier, bien entendu, les discours habituels. Mais bon, là, les discours habituels, tu mets ma tante, elle fait les mêmes discours. Faut faire attention là, si ça. Bon, on les connaît, je pense qu'un gars comme on a eu là, le Marseillais, l'ancien Marseillais qui a parlé dans l'interview, putain, je me souviens pas de l'arc qui était là. Rabiot, lui, le mec, il est super motivé parce qu'il se dit que c'est la dernière au comptoir pour lui. S'il est pas champion du monde cette fois-ci, il sera plus invité la fois d'après. Donc, je veux te dire que les mecs, Mbappé, il a mission. Enfin, mission, c'est con de dire ça, mission.
Non, mais il a fond.
Ça, c'est un vocabulaire bidon, ça, mission. Même moi, j'ai envie de me gifler quand je dis ça. Enfin, on sait très bien que.
Tu l'as dit, lui.
Ouais, mais je l'ai dit, mais regarde, t'as bougé pas, regarde. Vincent, c'est pas bien.
Vilain.
Voilà. Et donc, vilain Vincent. Et donc, oui, il faut se méfier de tout, de la Suède, de tout. Mais bien sûr, il faut se méfier. Il faut que le chauffeur du bus se méfie quand il est à l'équipe de France, qu'il mette le clignot, qu'il fasse attention de ne pas avoir un accident. Mais tout ça, crois-moi, qu'ils sont sereins. Ils ont de l'habitude. Ils ont été champions du monde ensemble. Ils ont fait une finale incroyable la fois d'après. Je vais te dire, s'il y a un groupe qui est prêt et qui est serein, c'est ce groupe-là. On a une équipe. Faut pas jouer les fingers. On a la chance d'avoir une équipe qui est équilibrée. Alors, en défense, bien entendu, elle a les qualités d'une attaque terrible. Automatiquement, t'es un peu moins bon dans l'état d'esprit en défense. Ça veut pas dire que sur les grands matchs, tu vas pas t'y filer.
Alors, Eric, qu'est-ce que ça dit les deux matchs d'hier?
Non mais c'est une leçon pour toutes les équipes qui sont entre guillemets favorites de match de Coupe du Monde. Aujourd'hui on a quand même compris, j'espère, et je fais confiance à Didier parce que je le connais par cœur sur ce genre de problématiques. Je peux te dire qu'il doit leur manger le cerveau depuis un long moment. Hein, sur
déjà,
quand les mecs disaient on est favoris, que le petit Cherki qui dit non,
on
est là
pour écraser
la gueule à tout le monde,
on
veut écraser tout le monde. Donc là il a l'instincteur et se jette sur les mecs dès qu'il y en a un qui a un excès de confiance. Donc, mais par contre, bien sûr que l'accident peut arriver à tout le monde, même à nous. Même à nous, c'est ce jeu demande ça. Et surtout, on se rend compte aujourd'hui que, et on le dit souvent parce que on a parlé de cette formule à 48, on parlera peut-être de la formule à 62, ou à 72, ou je sais plus à combien, là, ils vont aller un jour.
Déjà.
Mais oui, 64, voilà. Même les petites nations, même les petites équipes, elles sont bien organisées tactiquement, elles sont capables de t'attendre et de jouer en
sont en forme physiquement.
Ils sont capables de bien défendre en coulissant comme il faut, en ayant des mécanismes défensifs qui tiennent la route, parce qu'ils ont tous des entraîneurs malgré tout qui ont roulé leur bosse pour certains pays. On va pas les citer, mais on les a vus, les coachs qui sont déjà passés dans des grandes nations, et donc ça devient de plus en plus difficile de gagner un match, surtout quand tu arrives dans les matchs à élimination directe. Alors nous, on a un peu l'arme atomique, enfin on en a quatre d'armes atomiques, parce que on a quatre mecs capables de un ou deux sont moins bien de faire de grosses différences. Mais il n'empêche qu'on peut se retrouver un soir contre une équipe qui est inspirée, bien organisée et qui avec des flèches devant. Et ça peut être le cas, ça peut être le cas ce soir parce que devant ils ont de bons joueurs donc qui viennent te faire mal. Voilà, donc si on joue à notre niveau, si on met de l'intensité offensivement et qu'on ouvre le score rapidement aussi, parce que le scénario du match souvent fait que tu te facilites le match, il n'y aura pas de soucis. Mais attention, ce sport-là, contrairement à ton sport, enfin à votre sport, Denis et Vincent, puisque on le dit souvent, vous, le plus fort, à force d'usure, généralement, c'est rare quand au bout, il ne gagne pas. Parce qu'il a le ballon, parce qu'il est plus fort physiquement ou en tout cas.
La possession fait que tu gagnes.
Oui, la possession n'a pas fait gagner non plus.
C'est le plus fort qui a gagné quand même, Denis.
Ah, le plus fort sur le match, le plus intelligent,
des deux équipes a gagné.
Non, mais c'était un match équilibré à la base. Ce soir, c'est déséquilibré. Ce soir, c'est France-Géorgie en rugby. Tu le perds jamais. Voilà, 15 de France-Géorgie.
Voilà.
Tu pars pas le match.
Donc, mais je me fais pas de soucis parce que Didier, à ce niveau-là, après, si ça arrive, ça arrive parce que peut-être on aura fait un mauvais match sur le terrain.
Et puis, oui, voilà. Et puis, tu peux faire un mauvais match.
Mais je vois pas l'équipe de France se croire supérieure et être arrogant ce soir.
Denis, le seul piège, c'est la suffisance. Je crois pas. C'est pas une équipe qui est habitée par la suffisance, comme parfois ça peut arriver avec un excès de supériorité. C'est pas le cas de cette équipe. C'est pas le cas de Didier Deschamps parce qu'il a l'habitude de gérer ces situations là. Et puis on parle de match piège. Oui, le Brésil était, pour moi, le Brésil c'est le typique du match piège. Sauf qu'ils s'en sont sortis.
Ouais, ils s'en sont sortis. Et face à une équipe qui, sur le papier, est supérieure à la Suède ou au Paraguay.
Et je pense que le Brésil, il sort grandi de ce match parce que c'était pas évident avec des mecs qui courent à 2000 à l'heure. Ils ont une bonne défense, un bon gardien. Ils sont allés l'arracher cette qualif.
Tu sais qu'il y a une bonne défense et un bon gardien?
Le Japon. J'ai pas trouvé mauvais la défense.
Oui, pardon.
Japon. Non, je dis Japon. Parce que non, je parle de ces matchs pièges. Parce que, comme peut l'être la Suède ce soir, ça peut rentrer dans un match piège. Moi, ce que je ne crois absolument pas. Le Brésil, ils ont joué une équipe redoutable. Je pense qu'il y avait matière à s'inquiéter et ils s'en sont sortis.
Mais l'Allemagne a perdu. L'Allemagne, c'est pas de la suffisance.
Non, l'Allemagne
a embourbé dans un match.
Oui, non, je suis désolé, l'Allemagne. Il n'y a pas la qualité offensive de l'équipe de France. Ça, je suis désolé. T'as Musiala qui est bon. Et après, même, je sais pas, moi. Vous l'avez vu le match? La France contre le Paraguay, ils peuvent pas jouer comme ça. C'est pas possible. Non, je le pense pas. Mais on a trop. Alors, pour parler de l'équipe de France, on a trop. La force offensive de cette équipe de France, c'est pas qu'elle fasse peur, c'est qu'elle a le danger partout. Alors tu me parles de l'attaque, c'est Pirot qui a parlé d'attaque. Non, Eric, l'attaque suédoise. Mais attends, le problème, moi je préfère te parler de la défense suédoise, parce que là, comment ils vont faire quand t'as vu les matchs qu'ils ont joué les Suédois? Mais je m'inquiéterais. Ouais, je m'inquiéterais à toutes les attaques, je m'inquiéterais. Ah, parce que
Roman, Denis, toutes les équipes qui jouent contre nous fait des insomnies, hein.
C'est ce que je veux dire, c'est pour ça que je, comme toi, Eric, je le crains absolument pas. Je pense qu'il y aura pas photo, qu'il y a pas à craindre, parce que l'équipe de France.
Malgré tout ça, personne n'est à l'abri, même les grandes équipes comme l'équipe de France, de passer à côté.
D'un gros trou d'air.
Parce que c'est ça qui est terrible. C'est ça le sport, c'est qu'on se rassure un peu, tu vois, aussi siffle en l'air pour se rassurer.
Tu rassures par rapport à la qualité aussi.
Mais on a vu, et c'est ça qui est beau dans le sport, on a vu des grandes équipes parfois passer à travers. Alors, pas l'Allemagne, ça vaut pas un pichet aussi. Mais t'es jamais à l'abri, même l'équipe de France n'est jamais à l'abri de faire un mauvais match. De perdre, je ne le crois pas, mais de faire d'être en doute, de faire peur à tout le monde, ça fait partie aussi du truc. Hein.
Non, mais
je crois
qu'à
un moment donné, tu te feras accrocher quelque part. Hein,
on joue le Maroc. Je ne te vends pas du tout le même discours.
Ah, oui,
le Maroc.
Oui,
là, tu ne le sais pas. Parce que c'est surtout des équipes comme ça où tu vas faire des matchs incroyables. Parce que les mecs vont être concernés à 1000%. Et tu sais, écoute-moi, c'est souvent contre des fèves que tu fais des mauvais matchs. Contre le Maroc, crois-moi qu'on va faire un très très grand match.
Alors, l'élimination de l'Allemagne, c'est un avertissement pour les Bleus. Kevin au 32-16. Salut Kevin.
Salut Kevin.
Ah, Kevin.
Salut Kevin.
Salut l'équipe de rêve.
Ah ben oui, c'est ça. D'anglicisme avec vous, hein, parce que sinon.
Bravo de dire l'équipe de rêve. Merci, mon poulet.
Les gars, j'ai pas trop peur. Hein. Comme je disais au standard, le seul endroit où les Suédois me font peur, c'est quand je suis au rayon cuisine avec madame un samedi après-midi, où là on peut pas être d'accord et on peut s'embrouiller. Le match de ce soir, je suis plutôt serein. Soit je fais mon plan Mireille et je dis que faut prendre les matchs les uns après les autres, mais comme vous l'avez si bien
prenons
dit.
Prenons les deux par deux, France, du coup.
L'équipe de France, on a quand même de l'expérience. On a le sélectionneur qui est là aussi pour remettre les têtes en place. Et puis comme l'a dit Eric, par contre, oui, effectivement, on peut subir par rapport à leur attaque. Mais ce que j'ai vu depuis le début de la compétition, c'est quand même une équipe de France soudée, des attaquants qui défendent, qui font un pressing. Alors pas tous, mais certains. Enfin, même Kylian, je trouve qu'il est très très bon sur les premiers replis.
Il va pas tuer mec non plus.
Et puis j'ai vu le match d'hier, j'ai même vu le match du Maroc cette nuit. C'est pas du tout les mêmes adversaires. En fait, l'Allemagne cette année, tout le monde disait que ça allait pas aller loin. Effectivement, ça ira pas loin, malheureusement. Artun Minen, comme on dit chez vous.
Oui. Ah oui, Artun. Voilà. Là, c'est le cas de le dire. Hein. Mais là, ça a pété. Ils ont pas fait attention, ils ont pas fait Artun.
Ils ont pas entendu l'Artun.
Ils ont pas entendu l'Artun. Moi aussi, j'ai des problèmes de dyslexie.
On compatit, hein, on sait ce que c'est. Hein. Merci, Kevin. On va continuer sur les.
Le plus dur, c'est les Chinois, c'est de monter un meuble Ikea, c'est beaucoup plus dur. T'en as déjà monté, Pierrot, des meubles Ikea?
À la fin, il manque toujours une vis.
Qui c'est qui se débrouille sur des trucs comme ça?
Monter un meuble, ça va. Mais accrocher le meuble, genre de cuisine. C'est une autre paire de manches.
Parce que toi, tu prends pas les chevilles. Tu prends pas les chevilles, tu les mets pas dans le placo.
Il faut les féliciter. Allez, on va à Wimbledon.
Jamais je le ferai, ça. Mais écoute-moi, je m'en vais en courant dès que le meuble arrive.
Aujourd'hui, il y a une grosse journée avec au programme Serena Williams avec Loïs Boisson et Arthur Fils et puis bien d'autres matchs du premier tour. Eric Salio.
Salut à tous. Oui, ce sera pour plus tard les trois que tu as nommés. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a deux qualifiés chez les Bleus. Adrian Manarino, il va me dire, il joue un Français, donc c'est un peu logique. Il a battu Tito Androguet. Et Valentin Royer vient de battre un Anglais. En revanche, déception pour Giovanni Mpeche-Perica, sorti en 4-7 par l'Allemand Hoffman. Et puis petit souci physique pour Hugo Humbert qui vient de perdre le premier set et qui a fait appel au médecin, alors que Benjamin Bronzi lui mène 2-7-0 face à Gabriel Diallo. Mais tu l'as dit, les gros morceaux c'est plus tard, hein. C'est Arthur Fils, c'est Serena Williams et Sacha Zverev aussi qui joue.
T'as qu'à parler plus bas encore, t'entendras bien.
Eric Salio en direct de Wimbledon. Dans un instant, on rouvre les débats sur les séances de tir au but pendant les grandes compétitions, parce qu'hier il y a eu beaucoup d'échecs. À tout de suite.
Il est 15h27, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h30, on est dans le Super Moscato Show sur RMC avec Denis Charvet, Eric Dimeco, Adrien Aigouin. Mon petit Pierrot, dans une demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, c'est tout simple. La question est la suivante. Est-on obligé d'aimer le stade toulousain? Vincent Moscato règle le problème. Vincent qui n'a jamais joué à Toulouse, au contraire de Denis Charvet. Donc, on aura deux avis, peut-être deux regards différents.
Il a adoré le stade toulousain, Vincent.
Non, j'aime le stade toulousain, mais je me permets de le critiquer.
C'est une équipe quand même.
Logistiquement. Bien sûr, quand t'aimes le rugby.
Remarquable.
On va en parler, mais d'abord, on peut parfois dire qu'il ne. Voilà, de certaines choses.
D'abord, les tirs au but d'hier soir.
RMC,
le cri de gueule du Super Moscato Show.
Alors, donc hier, on a deux 16e de finale qui se sont terminés au tir au but Allemagne-Paraguay et Pays-Bas-Maroc. Et dans ces deux séances, on a eu beaucoup d'échecs. En tout, 20 tirs au but ont été frappés et 10 ratés. Donc, c'est du 50%. Et ça nous a frappé. Du coup, Diane Carlotti a enquêté. Salut Diane.
Salut Pierrot, salut à tous.
Est-ce qu'il y a des explications à ces ratés en Coupe du Monde?
Écoute Pierrot, déjà sur les 10 tirs au but loupés, il faut faire une distinction. Il y en a 3 qui ont été arrêtés par les gardiens et 7 qui n'ont pas trouvé le cadre. Et ça a donné des séances de folie.
C'est parti pour le Néerlandais qui croise sa frappe, c'est sur le poteau.
Oh là là.
C'est sur le poteau. C'est parti pour Timber, c'est complètement raté.
Oh là là.
C'est complètement raté pour Timber qui croise sa frappe, il a été perturbé par Bounou.
Petit pas d'élan pour Kaya Vers, l'arrêt d'Orlando Hill à la vie à la mort. Jonathan Tah qui s'élance au-dessus, dans le ciel de Boston.
La soirée a surtout été compliquée pour les tireurs. Beaucoup d'échecs, y compris des stars comme le Marocain Achraf Hakimi ou l'Allemand Kai Havertz. Et en fait, au-delà de la pression émotionnelle évidente, Lionel Charbonnier, ancien gardien de l'équipe de France, donne son explication.
On assiste de plus en plus à des tirs au but un peu farfelus avec des courses un peu bizarres, des courses tronquées qui veulent gêner le gardien en s'arrêtant ou en prenant peu d'élan. Et le joueur se met lui-même en difficulté.
Bon, soulignons aussi la belle réussite des gardiens de but, car tout le monde vous le dira, marquer un pénalty, c'est la norme. Ce qui est exceptionnel, c'est quand le portier réalise un arrêt. Et l'un d'entre eux est très fort dans cet exercice, c'est le Marocain Bounou. Hier, il a stoppé le dernier tir au but néerlandais, tout en restant debout. Thierry Barnera, spécialiste des gardiens.
Sur le quatrième, par exemple, il bouge son bras gauche, exprès. Il veut influencer le tireur. Il fait un step, c'est-à-dire qu'il fait un pas sur le côté. Et puis après, il reste debout. À un moment donné, les gardiens, ils vont vous le dire, ils rentrent dans la tête du joueur. Ils sentent son intention. Et c'est pour ça qui vont décider de partir à droite, à gauche, etc.
Bon, et puis Vincent, en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment se préparer au tir au but ? C'est un geste technique. La clé semble donc être la répétition. Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, est persuadé du contraire. Pour lui, s'entraîner à l'exercice n'a aucun sens. Résultat, hier, comme en 2024 et en 2014, les Oranges ont été éliminés de la Coupe du Monde à l'issue des tirs au but.
Alors, c'est aussi la position de Didier Deschamps. Donc, c'est intéressant. On n'est pas d'accord, d'ailleurs, sur la question. Et il y a des avis très tranchés. Vincent Deschamps, il est l'école Koeman. Donc ça se prépare pas une séance de tir au but parce qu'on peut pas recréer les conditions d'une séance. Est-ce que tu partages cet avis?
Je sais pas, c'est un exercice j'ai rarement fait à part à l'école, mais bon, j'avais pas la même pression.
De point de suite, c'est pas
Et puis en plus, c'était la maîtrise, j'ai pas resté longtemps. Et puis en plus, j'ai pas resté très longtemps à l'école, donc j'ai pas eu l'occasion d'en tirer beaucoup. Mais je comprends qu'on puisse dire que recréer la pression d'un match, c'est impossible à l'entraînement. Maintenant, cadrer, ça se, voilà, tu peux sur la précision quand même bosser une partie. Dire que tu ne peux absolument pas bosser. Non, je le crois pas. Cadrer ton tir, avoir du sang-froid, mettre un goal en face et essayer de. De toute façon, tu ne peux rien travailler. Dire ça, c'est très restrictif parce que tu ne peux rien reproduire à l'entraînement, qu'il soit comme un match. Une attaque, un corner, ce que tu veux, à partir du moment où il y aura une adversité, tu ne la retrouveras jamais à l'entraînement. Donc pour moi, c'est un peu faiblard comme défense de dire qu'on ne peut pas travailler les trucs, c'est très faiblard. Après, moi, je pense que c'est individuel. Un buteur au football, moi, je me souviens souvent. J'ai même vu des mecs comme Diego Dominguez faire rester comme tous les buteurs avec leur femme derrière qui ramassait les ballons parce que tout le monde partait. C'est très individuel, c'est très très personnel. Et de bosser son je pense que ça se bosse. Maintenant tu reproduiras jamais.
C'est-à-dire dans le rugby vous tirez les pénalités à vos femmes, c'est ça?
Il vient de dire
que
des séances supplémentaires.
Je pense que c'est alors très individuel. Et l'entraîneur qui, moi, je comprends pas l'entraîneur qui dit on peut pas le travailler. C'est débile de dire ça. Non mais tu peux rien travailler autrement.
Désolé, je vais reprendre ton propos, mais dire ce que tu viens de dire, c'est débile aussi. Ne crois pas que mec qui tire les pénaltys habituellement pour son équipe ne tire jamais de pénalty.
On est dans sa classe.
Ce que disent les gens qui ils disent il faut travailler les pénaltys, c'est-à-dire à la fin de la séance où tout le temps tu mets les cinq qui vont tirer avec le gardien et puis ils y vont à tour de rôle et tout. Mais bien sûr que il y a pas un tireur de pénalty qui n'a jamais tiré de pénalty à l'entraînement, ça n'existe pas les gars, ça quand même. Les tireurs de pénalty, les mecs
Jonathan Tah, c'était la première fois qu'il tirait un pénalty dans sa carrière.
Qui tirait pénalty en match
le dernier qui
qui tire un penalty en match.
Ah oui, d'accord.
Ne crois pas que Jonathan Tah, il a jamais tiré de penalty à l'entraînement.
Il le fait très rarement. Les Allemands, ils se sont tous échappés les uns après les autres. Moi, je pense que si t'as préparé ça, ne serait-ce que mentalement, tu t'es préparé mentalement à que ça se termine au tir au but.
Moi, écoute, il y en a moins qui s'échappent. On a déjà fait le débat. Je suis de l'école d'Edé Coman et bien d'autres. C'est-à-dire que tu as des mecs qui sont tireurs de pénalty, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a les pénalty, les mecs veulent y aller, et les mecs bossent régulièrement à la fin de l'entraînement les pénalty, et encore plus quand t'arrives des matchs de groupe, quand t'arrives à le truc.
Y a pas de débat.
Bien sûr qu'il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je ne comprends même pas qu'on ne comprenne pas que.
Oui, mais il dit que ce que dit Didier.
Mais comment il dit le contraire?
Mais non, mais comment il t'explique qu'il répond aux gens?
Ils disent oui, on a travaillé les sens de tir au but.
Oui, mais voilà, c'est-à-dire que la veille, voilà, ce que dit Koeman et ce que disent d'autres en opposition, c'est la veille du match, tu as fini l'entraînement, tu prends les 5 qui seront sûrement sur le terrain, ou les 6, ou les 7, ou les 8, et tu les mets devant ton gardien et tu tires les pénaltys. Ça, pour moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que, et je vais vous donner des exemples, d'abord, tu n'es pas sûr que les mecs que tu as choisis seront là à la fin du match pour tirer les pénaltys, donc tu es obligé de faire tirer 10, mais pourquoi pas, ils tirent à 10, il n'y a pas de souci. Sauf que, il y a des gardiens qui sont il y a des contextes, donc la pression, tout ce qu'on connaît, hein, c'est une finale ou c'est une 16e de finale, c'est pas pareil, c'est et surtout, et nous on va avoir un gros avantage avec ça. Il y a des gardiens qui instillent la peur. Il y a des gardiens qui sont des arrêteurs de pénalty. Et tu peux travailler tant que tu veux avec ton gardien, si c'est une gruyère, que tu les mets facile. Quand tu arriveras devant Maignan, parce que c'est ce qu'on va le vivre, Maignan, il a la réputation d'arrêter les pénaltys, eh ben, tu peux en avoir fait 20 tous les jours pendant 10 jours avant le match. Tu vas avoir
Et Denis Charvet.
Éric, quand même.
Écoute, j'ai même du mal à comprendre le raisonnement d'Éric et des autres d'ailleurs, de Deschamps ou des autres. Pourquoi ?
Parce que c'est pénalités. Oui, d'accord.
Non. Enfin, moi les pénalités, excusez-moi, j'étais buteur pendant des années. Plus je m'entraînais, plus j'en passais.
C'est pour ça que je te dis de pas comparer.
Mais non, la comparable parce que l'appréhension, tu la travailles. Je suis désolé.
Bien sûr. Mais non, mais c'est le même exercice.
Mais laisse-moi finir.
Attends, laisse parler Denis.
L'appréhension, tu la travailles à l'entraînement. Une fois que t'es en match, mais cette appréhension elle va diminuer parce que tu seras habitué à appréhender ce moment-là, et c'est pour ça que je ne le comprends pas. Évidemment que ça fait du bien de s'entraîner à l'entraînement, de prendre un gardien, que le gardien te propose X, comment dire, mimique ou je ne sais pas quoi, il t'en tire 10 penalty, il va sortir à gauche, il te mettra le bras, il va venir te parler, mais ça change tout pour moi. Ça change tout.
Ça t'aide
énormément. Ça ne peut pas te nuire, c'est ce que je veux dire.
Donc, ça ne peut pas tenir.
Donc, à partir du moment où ça ne peut pas tenir, tu le fais, tu fais l'entraînement, ça va t'aider, tout simplement.
Mais non, mais c'est un truc de feignant, ça, c'est des raisonnements de feignant.
Mais non,
t'es
mais non,
feignant,
vous ne comprenez pas.
Depuis quand des pozos, t'es devenu une feignante.
Mais si on le comprend entre le match et l'entraînement, bien sûr qu'on la comprend.
Mais la différence entre une pénalité qui est.
Non, mais t'as pas parlé de pénalité, là.
Il m'a parlé, il m'a dit que plus.
Mais l'état d'esprit, c'est un esprit, c'est le même.
À ce moment-là, arrêtons de travailler les corners, puisque les corners, l'entraînement, tu les fais jamais devant la défense que tu vas affronter.
Alors vous savez quoi, c'est vous qui avez raison.
Non.
Mais si vous voulez pas, si vous voulez me comparer un penalty avec un corner, une transformation, c'est que vous n'avez jamais été en position de tirer un penalty devant du monde, devant un stade de 80 000 personnes, et que vous ne comprenez pas la différence qu'il y a, et surtout la différence qu'il y a un penalty à l'entraînement contre ton gardien. Tu peux en tirer 20 à ton gardien. Celui du lendemain, ce n'est pas le même.
Quand tu
n'est pas un geste technique. N'importe quel joueur de première division est capable à la distance d'un penalty de mettre une lucarne, de mettre contre le poteau.
Alors, je te pose une question. Quand tu es sportif de haut niveau et que tu es écrasé par la pression, est-ce que la maîtrise technique ne t'aide pas à surpasser la pression quand même?
Évidemment.
Mais la maîtrise technique.
C'est-à-dire que quand tu arrives devant ton point de pénalty, tu sais exactement ce que tu vas faire, que tu as 1, 2, 3 options, tu choisis, alors, tu fais ta routine, tu frappes. Moi, hier, j'ai vu des gars prendre leur élan.
Ils savaient pas quoi faire.
Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Je veux pas croire que les 20 tireurs qu'on a vus hier savaient ce qu'ils allaient faire, avaient préparé, avaient une routine, etc. Et je comprends pas qu'à ce niveau, tu n'ailles pas au max de ce que tu peux réduire comme incertitude.
Détrompe-toi. Pierrot, chaque mec qui va tirer le pénalty, avant d'aller tirer le pénalty, il sait où il va le tirer.
Ouais, mais s'il l'a jamais fait.
Mais il l'a pas jamais fait. Je vous explique que les mecs qui tirent les pénaltys à l'entraînement.
C'est différent.
Il n'y a pas un mec à la Coupe du Monde qui va tirer le pénalty, qui a jamais tiré de pénalty quand même.
Mais t'as tort.
Comment vous pouvez croire en ça?
Mais non, mais tu truc et puis après tu dis le contraire, tu dis qu'il s'entraîne et après tu dis qu'il s'entraîne.
Je vais te dire, le meilleur tireur de pénalty
comme vous, l'entraînement comme vous, vous l'entendez. Vous, vous pensez que les mecs, ils vont se mettre en randonnion comme le jour du en ordre et en randonnion comme un truc. Mais non, mais
les mecs, ils le font
bien. Mais c'est ça la différence. C'est
le débat entre. Du pénalty s'appelle Neymar, il s'entraîne à tirer des pénalty.
Non, mais lui, non. Neymar, il est capable. Non. Faire ce qu'il fait Neymar, c'est un don. C'est-à-dire que. Mais bien sûr que j'ai raison. Neymar, il lève la tête, il regarde où il va le gardien, il la met.
Mais parce qu'il s'entraîne aussi. Il s'entraîne beaucoup au pénalty, je te dis. Donc c'est ce qui est le raison quand même.
Il s'entraîne comme les autres à la sortie de l'entraînement. C'est un don qu'il a Neymar. Arrêtez.
Alors, c'était un excellent débat.
Non, mais c'est sûrement vous. Non, mais c'est sûrement Denis Charvet et Vincent Moscato qui ont raison plutôt que Didier Deschamps.
Excuse-moi,
mais Keman
il a perdu et Deschamps la dernière
perdu
aussi.
Je comprends pas pourquoi ça sert les mecs qui viennent pas directement en quart de finale parce que ça sert à rien de faire ses gammes. Faire ses gammes c'est essentiel dans tous les sports, mais vous dites que non. Donc venez, vous entraînez pas.
Stop. C'est l'heure de parier.
On peut pas entendre ce qu'on entend.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
C'était animé, hein.
Bravo.
Johan Bredoff.
Bonjour les SMS. Bonjour à tous.
On parie sur France-Suède.
Ouais, France-Suède, évidemment. Un match à suivre à 23h25 seulement. La cote qui a baissé, tiens, de l'équipe de France. C'est 6-25 le nul.
Pas de tir au but.
10-50 la victoire de la Suède. Bah, moi, je vous propose un petit pari qui me paraît sympa. C'est le but sur pénalty de Kylian Mbappé. Ah. Côté à 3-50.
Ah, moi, je trouve que ça traîne lui au moins. Mbappé ou pas. Parce que moi, ça dépend si ça traîne ou pas. Si ça traîne pas, je ne mets pas sur lui, moi.
Pénalty de Mbappé.
3-50. Je me suis entraîné toutes mes carrières à tirer des pénalties. J'ai jamais tiré pénalty en compétition.
Ils t'ont jamais dit.
Mais bien sûr que oui. C'est le contraire de ce que vous dites. Tout le monde s'entraîne au pénalty. Même ceux qui ne les tirent jamais.
Vincent, on est d'accord. Stop, c'est fini. Vincent, ton pari.
Alors, Mbappé qui tire un pénalty, mais qui ne s'est pas entraîné, qui le met à côté.
Je ne peux pas, ça.
Victoire de la France, plus de 3 buts d'écart.
Ah ouais, plus de 3 buts d'écart.
La raclée. Ah ouais, la raclée.
Eric, c'est 2,35 seulement.
Suédois. La Suède, but de Mbappé.
Et c'est 1,80 ça.
Allez, merci Johan.
Voilà. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13.
Appel non surtaxé.
Dans un instant, c'est le journal moyen.
Oui, la BBC a calculé le bilan carbone du président de la FIFA depuis le début de la Coupe du Monde. C'est pas joli, Vincent. C'est pas très écolo.
Alors, on nous écoute un peu partout en France. Il y a une réaction à ce débat sur les pénalties à Toulouse. On nous dit, vous parlez fort, on fait la sieste à Toulouse. Alors, ne vous inquiétez pas, on va vous réveiller à 16h, les Toulousains, avec le débat. Est-on obligé d'aimer le stade toulousain ? Journal moyen, tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h47, on est dans le super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin, première édition.
La première édition, l'actu, la culture, les médias, des petites mâchoires paralysées. Notre ami Didier Giraud est de retour dans le journal moyen. La BBC calcule le bilan carbone de Gianni Infantino. Et puis, on va passer le brevet dans le Moscato Show. Vous écoutez RMC, c'est le 2722e journal moyen de l'histoire du super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Un petit détour par les grandes gueules sur RMC, RMC Story, 9h midi du lundi au vendredi. Didier Giraud est de retour, l'agriculteur, la mâchoire, coup de gueule sur les normes. Il y a trop de normes en France.
On crève de la France, de ses normes et de la judiciarisation de tout et de rien.
C'est pas facile à placer. Ils veulent tous placer judiciarisation dans les grandes gueules. Ça passe jamais.
Est-ce que c'est le dire, nous ?
Est-ce que vous savez le dire, vous ? Denis ? Non.
Allez, Denis. Ouais, judiciarisation.
Bien, Vincent. Ouais, après un essai qui est passé inaperçu.
Oui. Il a fait un loose-dé, il s'est bien dé. Je pensais que vous l'aviez pas entendu.
C'est comme les pénalties, t'as pas le droit de t'entraîner.
Non, mais tu vois, là, tu t'entraînes, tu vois.
Moi,
quand tu t'entraînes, tu es meilleur.
Je pense qu'Eric va avoir adopté la tactique de lien très vite. Vas-y, Eric.
judiciarisation.
C'est bon, bah, Denis, tu peux là.
Judiciarisation.
Voilà, c'est bon, on y est.
Bah, j'ai un professeur, je vais
bah, tu vas pas nous. Tu vas, bah, tu
vous
vas
êtes
pas
bien
nous
entraîné malgré la pression, vous l'avez passé.
Et Olivier Truchot, sur les panneaux de limitation de vitesse sur les routes en France, Olivier nous fait une petite pierre d'Orient comme un peu la natation.
Par exemple, sur le tronçon. Entre Lyon et Avignon, entre donc le Rhône et le Vaucluse sur la Nationale 7, oh, on prend 160 km.
Nationale, ça c'est la spéciale Piron, c'est comme ça. Sans transition à Coupe du Monde et bilan carbone, jingle, Coupe du Monde.
An orange, a café.
We will make America great again.
An orange juice and a café.
La BBC, la télé publique britannique, s'est penchée sur le bilan carbone du président de la FIFA, Gianni Infantino, parce que c'est vrai que depuis le début de la Coupe du Monde, ben on le voit partout, on le voit régulièrement dans tous les stades, tous les matchs, comme au Qatar, sauf qu'au Qatar, il prenait la voiture pour aller dans tous les stades.
La trottinette.
Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique. Donc nous sommes le 30 juin, la Coupe du Monde est ouverte depuis le 11 juin. Depuis le 11 juin, l'enquête a été publiée hier, hein, ça va continuer, 27 vols en avion depuis le début du tournoi de la Coupe du Monde pour le patron Gianni Infantino. Il lui est arrivé de prendre même 3 vols différents certains jours, 66 heures dans les airs. Il a parcouru 50 122 km. Le vol le plus long, c'était 4 507 km entre Vancouver, de Vancouver à Miami le 13 juin, après avoir vu Australie-Turquie. Le 22 juin, ça c'est génial, il devait répondre à une interview, il est invité sur Fox News. Ok, le 22 juin, Fox News, donc patron de la FIFA, grande chaîne, etc. Il est parti de Philadelphie pour arriver à l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey pour faire 148 km. 148 km, il a pris son jet pour aller répondre à l'interview.
Teterboro, il connaît bien, mais ça.
Et puis, donc en gros, son bilan carbone est l'équivalent à 78 personnes sur une année entière sur 7 jours. 7 jours de bilan carbone, c'est l'équivalent de 78 personnes sur une année entière. Ouais, belle enquête de la BBC. Et pas bravo, monsieur Infantino.
On a fait la Coupe du Monde sur deux continents presque.
Ouais.
Donc, bon. C'est pour ça que je prends plus l'avion.
Mais bravo, comment il va faire Vincent. Parce que là dans 4 ans, c'est 3 pays de base, après des matchs en Uruguay, en Argentine.
Ouais, mais bon.
C'est de pire en pire.
C'est pour ça que t'as vendu ton jet, Vincent, c'est ça?
Ouais, non, je ne l'ai pas vendu, moi. Je fais semblant de l'avoir vendu. Je fais comme tout le monde pour être à la mode. Tu dis que tu l'as vendu. Moi, j'ai un ami, mais je l'ai mis au nom de Christelle. Donc, les mecs ne savent pas son nom de jeune fille.
Ah, c'est bien vu.
Bravo, Vincent.
C'est discret.
Et puis, toujours sur la Coupe du Monde.
C'est comme tous les escrocs, les mecs qui disent oh là, oui, c'est sûr. Hein, mais bon.
Toujours sur la Coupe du Monde, le point audience. Très beau score hier pour Brésil-Japon à 19h. 19h, c'est pas le prime. Hein. 5 millions de moyenne. 19h, c'est énorme. 30% de part d'audience.
L'affiche est belle. Hein.
Ce soir, curieux. Hein. Je suis curieux de voir. C'est un match décisif. France
11 millions
à 23h.
Ah, plus
23h, c'est le plus fort du monde.
Non, non, mais c'est le 16e de finale.
Non, mais il y aura moins de monde qu'un match à 21h.
Moi, 14, je te dis.
14, carrément.
Allez,
aussi bien. Ça y est, ça a mordu. Là.
T'es fou, donne envie, l'équipe de France aujourd'hui.
À plus, il fait chaud, donc les gens, en 23h, qui sont à la fraîche, il fait un peu plus frais. Tu vas boire un coup d'or, tu regardes le match.
C'est ce que je vais faire, Eric, d'ailleurs.
Eh ben voilà. Est-ce que tu vas aller là où on est allé là, pour le premier match où les buts, on les avait 3 minutes après?
Non, c'est grâce à Vincent.
Non,
je vais chez Laurence à la piscine, qu'on embrasse.
Très bien, dans le 6e arrondissement de Paris. Très bien.
Encore une bibliothèque.
Sans transition. Ah, Pierrot, je sais que tu l'as vu. Énorme carton record, musique et cinéma. Le film Michael, consacré à Michael Jackson, bat tous les records. Le film est devenu depuis hier, dans le monde. Il est devenu le biopic le plus lucratif de l'histoire. Il dépasse Oppenheimer de Christopher Nolan. Lundi, donc hier, il cumulait ce film 977 millions de dollars de recettes, 855 millions d'euros. Et en France, moi j'avais pas appris la dimension de
5 millions, non ?
5,4 millions d'entrées.
C'est énorme.
Par les temps qui courent, c'est extraordinaire.
1,4, il y avait Pierrot.
Oui, Pierrot, c'est allé.
Vas-y, allez.
C'est pas mal. Après, c'est pas un banger, tu passes un bon moment parce que
c'est pas l'acteur
est incroyable. Il y a de la bonne musique, évidemment, mais après, c'est très édulcoré.
Oui, voilà. Le problème, c'est que.
Voilà, on attendra qu'il passe à la télé.
Alors, attends, là, Pierrot, alerte, Pierrot parle comme un jeune. Il a dit, c'est pas un banger.
C'est pas un banger.
C'est énorme. Non, mais c'est pas relevé, mais alors. Ah non, mais.
C'est pas un banger. Nous, on
croit
que c'est un burger. On est pas jeunes, nous, Pierrot.
Explique-nous, Pierrot.
C'était
un banger. Non, mais les auditeurs ne se savent pas.
Un banger, c'est un banger.
Ben oui, d'accord, mais Dinger. Les auditeurs,
c'est une tuerie, quoi.
Ah, voilà. Oh là là, je le vois bien, Pierrot, en train de dire, ouais, putain, ce soir.
Avec Oscar, PSG, avec Oscar, il va parler comme
un Oscar qui dit Banger, évidemment.
Ah oui, tu détestes sur tes fils,
non, c'est l'inverse.
Non, c'est l'inverse.
C'est
le mec qui va le faire, les jeunes.
Sans transition, allez, on passe le brevet, on a le temps. Jingle brevet.
Il y avait deux Simone Veil, il n'y a pas Simone Veil de l'appartement, une plus vieille encore.
140 plus 290,
520.
Non.
Et en plus, tu places à Polymère. De quelle origine était Guillaume Apollinaire?
Guillaume Apollinaire!
Guillaume, mais comment c'est possible? On l'avait passé! Ça c'était hors piste! Ça c'était hors antenne, vous auriez pu au moins avoir la délicatesse de ne pas le passer.
C'est hors piste, c'est un dérapage, oui!
Guillaume! Ah non, mais non, mais c'était en direct, et si j'en parlais avec Fred, c'était pas.
Hier, il y avait 761 071 candidats de la série générale du brevet, des élèves de 3e, à 9h, le rendez-vous pour l'épreuve, et c'est ton épreuve, Vincent, c'est pour ça que je t'en parle. L'épreuve d'histoire géo, l'histoire, le chapitre, c'est pour Vincent Moscato, c'était le chapitre concerné par l'examen, l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales, 1914-1945. Et là, Vincent, je pense que sans avoir bachoté, sans avoir révisé, serais régalé. Développement construit, donc, c'est sur des cerveaux 18 points, sous la forme d'un développement construit d'au moins 30 lignes. Présenter les caractéristiques du régime de Vichy et expliquer comment la résistance a lutté pour rétablir la République. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un ou plusieurs mots suivants. Antidémocratique, antisémitisme, collaboration, valeur de la résistance, libération.
Il te donne des mots comme ça.
Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais. Pour t'aider à t'organiser dans ton plan.
En troisième, il doit y avoir des trucs, tu dois pleurer de rire. Il doit y avoir de ces trucs, mon pote.
Oui, mais tu sais, après, il y a des gens qui publient
Jean
des
Moulin, sur... ouais, bah, c'est un mec qui faisait de la farine, il était meunier. Jean Moulin, il avait un moulin pas loin de Paris.
Chaque année, mais ça se fait moins, mais il y avait un prof qui publiait les perles du bac.
Ah oui, c'était bon.
On a du mal à y croire, même, tellement c'est gros.
Parfois, c'est gros, parfois, on se demandait si c'était pas Fred Pouillet qui avait inventé.
Oui, mais tu sais pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'après, il y a eu des fakes un maximum. Ouais. Les mecs, c'était des acteurs.
Mais tu sais, comme les brefs de comptoir, le premier était génial. Mais après, derrière, c'était tout inventé. Ouais,
après, c'était exagéré. Ouais. Mais non, c'est intéressant. Et puis, c'est pas très confus.
Il faut avoir bossé un minimum. Et puis, tu te régales après, derrière. Voilà. Ouais, introduction, développement, et voilà. Ah, Denis Charvet demande quelque chose.
Non, t'as bien ça.
Qu'est-ce qu'il y a, Denis?
Qu'est-ce qui se passe?
Denis lève le doigt comme s'il voulait changer comme un joueur.
J'ai commencé à travailler le Kikadi, je pense que c'était maintenant, mais en fait, j'ai une heure d'avance.
Ah oui, là, t'as un décalage horaire.
C'est bien, c'est-à-dire que t'es prêt.
T'as un arbonne, toi aussi, ou quoi?
Tu vois, c'est comme le Kikadi, c'est comme les pénalties. Quand tu travailles, t'as quand même plus de chances de gagner.
Mais non, ça ne sert à rien.
Non, mais il y a aussi. Non, mais tu sais qu'il y a eu un argument que je t'ai pas sorti, Eric, parce que j'ai eu peur que tu pètes les postes en criant. Il y a un mec qui nous dit, ah bon, bah alors du coup, comme au golf, c'est pas la peine de s'entraîner, du coup.
Mais non,
c'est pas grave.
Non, mais les pénalités, c'est vrai que t'as pas l'impression qu'à 60 mètres à le coin devant 80 000 personnes, ça n'a rien à voir.
Vous voulez. C'est soit que vous voulez faire les imbéciles, soit
vous êtes imbéciles.
Les gammes, dans tous les sports, tu fais tes gammes. Alors, tous les matins, tu les fais à gauche, à droite. C'est ça qu'on rigole, t'as pas à gauche, t'as pas à droite.
Les gammes, elles sont faites. Sur les séances de tir au but. Le débat est terminé, donc vous pouvez le poser. Casté sur rmc.fr. Attention, parce qu'il y a un autre sujet totalement inflammable qui arrive. Est-on obligé d'aimer le Stade Toulousain? Vincent Moscato règle le problème sur RMC.
Ah, mais j'ai compris, vous en faites pas des gammes avant Osiris, non? Vous en faites jamais. C'est pour ça.
Toujours.
C'est pour ça, jamais vous répétez. Allez, on arrive tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.